suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Deux jours après un soulèvement militaire réprimé, le climat reste extrêmement tendu au Venezuela. L'opposition appelle à une journée de manifestation aujourd'hui pour protester contre le gouvernement de Nicolas Maduro, dont elle conteste la légitimité du second mandat.
Le pape François arrive aujourd'hui au Panama pour une nouvelle édition des Journées mondiales de la jeunesse.
L'occasion pour le souverain pontife d'y aborder des sujets aussi inquiétants que caractéristiques de la région, qu'il s'agisse de la pauvreté, de la corruption ou bien encore de l'émigration.
Dans votre édition également, Thomas Cluzel, le président russe Vladimir Poutine reçoit aujourd'hui à Moscou son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.
Ensemble, ils doivent discuter de la situation en Syrie. En l'occurrence, Ankara cherche à convaincre Moscou du bien fondé de sa proposition d'une zone de sécurité dans le nord syrien pour y empêcher toute autonomie kurde. Pas sûr en revanche que la Russie y soit favorable.
En France, du glyphosate et des substances chimiques dangereuses ont été retrouvés dans les couches jetables pour bébés.
Oui, c'est ce qui ressort d'une expertise inédite publiée aujourd'hui qui conclut un risque pour la santé des enfants. Le gouvernement demande aux fabricants d'éliminer ces produits. Enfin, dans une vingtaine de minutes, invité du journal Pascal Perrineau, politologue, aujourd'hui l'une des cinq personnalités désignées pour garantir l'indépendance du grand débat national. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Nous, on va s'intéresser aujourd'hui avec notre invité qui est traductrice de presse et qui s'appelle Bérangère Viennot à la langue de Donald Trump, à cette syntaxe déroutante et aux nouvelles réalités qu'elle traduit ou tout au moins met en lumière. On en parlera donc avec notre invité à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Autrefois pays le plus riche du continent sud-américain, désormais en proie à d'importantes pénuries alimentaires et de médicaments, mais aussi une hyperinflation démesurée de 10 000% annoncée pour 2019. Le Venezuela est aujourd'hui miné et depuis quelques années déjà par la pire crise économique de son histoire récente. Et comme par voie de conséquence, ou à moins que cela n'en soit l'une des causes, le pays se retrouve à présent traversé par une crise de légitimité du régime en place. Après que des émeutes ont éclaté hier dans différents quartiers de la capitale, avec pour objectif de soutenir une trentaine de militaires insurgés qui la veille avaient opéré une tentative de soulèvement contre le président Maduro, l'opposition a décidé d'appeler ce mercredi à des manifestations dans tout le pays. Objectif, réclamer la mise en place d'un gouvernement de transition et l'organisation de nouvelles élections. Alors il s'agira de la première mobilisation d'envergure après les grandes manifestations de 2017 qui avaient fait 125 morts. De son côté, le Parti Socialiste de Nicolas Maduro a prévu d'organiser sa propre contre-manifestation. Gouvernement et opposition pourront ainsi compter leurs forces dans la rue. Et puis au-delà de ce bras de fer strictement national, Olivier Poujade, ce climat explosif est aujourd'hui entretenu par les pressions exercées depuis l'extérieur, à commencer par les États-Unis.
Et un soutien indéfectible annoncé hier par le vice-président américain Mike Pence en espagnol et en anglais. Nous sommes avec vous. Vous, c'est l'opposition vénézuélienne qui, depuis deux semaines, est parvenue à se ranger derrière un homme, Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale. Une opposition qui teste donc sa popularité aujourd'hui en appelant la rue à manifester. Pour la première fois au Venezuela, un contre-pouvoir semble se structurer pour imposer l'ouverture d'un dialogue à Maduro. Et l'on peut s'interroger sur la pertinence de la stratégie américaine. Dans sa prise de parole, Pence décrit l'Assemblée nationale comme le dernier vestige de la démocratie au Venezuela. Une diplomatie intrusive dans la ligne de la nouvelle politique de reprise en main du continent sud-américain initiée l'an dernier par l'ancien secrétaire d'État Rex Tillerson. Un discours relayé aussi depuis Davos il y a deux jours par le nouvel ami de Trump, le Brésilien Bolsonaro. Le problème, c'est que cette méthode, la méthode américaine, présente le risque d'une part de jeter de l'huile sur le feu, exalter les manifestants et du coup donner des arguments à Maduro pour justifier la répression et accuser, comme il l'a fait hier, les États-Unis d'ordonner un coup d'État fasciste, de favoriser en quelque sorte l'insurrection. Washington chercherait donc un passage en force alors que tout semble aujourd'hui réuni pour que Maduro accepte enfin le dialogue. Juan Guaido semble s'imposer comme un leader naturel de l'opposition. Le pouvoir n'a plus le soutien inconditionnel des forces armées. Le moment semble donc idéal pour revenir à la table des négociations. Message porté ce week-end par un groupe de diplomates européens après avoir rencontré Nicolas Maduro puis Juan Guaido pour faire en sorte de maintenir ouvert tous les canaux de communication.
De l'exode massif des Vénézuéliens fuyant la crise économique et politique dans leur pays aux caravanes de milliers de migrants centra-américains marchant désespérément vers les États-Unis. L'année 2018 aura notamment été marquée par des flux migratoires sans précédent dans la région. Or, cette crise migratoire sera justement l'un des thèmes principaux de la nouvelle édition des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, organisées cette année au Panama. Quelques 200 000 jeunes catholiques de 150 pays y attendent l'arrivée sur place aujourd'hui du pape François. Alors pour le premier souverain pontife latino-américain de l'histoire, ce bain de jouvence sur ses terres devrait constituer une parenthèse au milieu du torrent de scandales, d'abus sexuels secouant l'Église. Et puis ce sera aussi l'occasion pour le pape dit des pauvres d'y développer ses thèmes de prédilection et tout particulièrement au Panama, pays assez méconnu d'Amérique centrale, hormis des affaires de corruption liées à la finance mondiale et où les inégalités s'accroissent, bien que le Panama soit généralement étiqueté paradis fiscal. Je vous propose d'écouter le reportage sur place signé de notre envoyé spécial Mathilde Imberti.
Des JMJ sur mesure pour le pape François. Il communiquera avec la jeunesse en espagnol, sa première langue, et pour aborder des thèmes chers à son pontificat. Les migrations, la croissance économique du Panama attire les déshérités d'Amérique et les inégalités sociales. Au Panama, le fossé entre riches et pauvres se creuse, déplore Narcy, serveur, la vingtaine, tout en pointant du doigt les gratte-ciel de la capitale Panama City.
Quand on débarque ici, on a l'impression de se trouver à Miami, à Dubaï ou à d'autres ville de ce genre. En fait, il y a beaucoup de pauvreté dans notre pays. Les riches ont de plus en plus d'argent et nous, tout en bas de l'échelle, on souffre.
Jenna est institutrice dans un quartier pauvre de la capitale. Elle espère des avancées pour le Panama grâce à la visite du pape. C'est un premier pas, dit-elle. Son petit pays se retrouve au centre des attentions.
C'est déjà très important pour nous. Un tel événement, c'est la première fois. On croit rêver. Et puis recevoir des gens du monde entier ici, c'est un honneur.
200 000 jeunes convergent vers le Panama qui compte en temps normal moins de 4 millions d'habitants. Le pape y est attendu ce soir.
Au Mexique, le dernier bilan de l'explosion d'un oléoduc vendredi dernier fait état de 96 morts, ce qui en fait l'un des incidents les plus meurtriers des dernières années dans le pays lié au réseau de distribution illégale du carburant. 7 ans après le début d'un conflit sanglant qui a déjà fait plus de 360 000 morts et contraint des millions de personnes à l'exode, bien malin aujourd'hui, celui qui pourrait prédire qui remportera la guerre et plus important encore, qui gagnera la paix en Syrie. Depuis le début du soulèvement contre le régime de Damas et l'écrasement de la révolte par Bachar el-Assad, le jeu des influences et des surenchères réciproques a conduit à un approfondissement de la crise régionale, rendant chaque jour un peu plus improbable, encore impossible, le retour à la stabilité. Alors aujourd'hui, signe que la question syrienne s'est complexifiée du fait de la multiplication des ingérences étrangères et du renforcement des autoritarismes, les présidents russes et turcs doivent se retrouver à Moscou. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan disent vouloir chercher ensemble une solution politique, sauf que l'un et l'autre sont dans des camps opposés. Quand la Russie soutient militairement le régime de Damas, la Turquie aide des groupes rebelles qui veulent renverser le président Bachar el-Assad. Dernier épisode en date, en début de semaine, le président Erdogan avait indiqué qu'il plaiderait auprès de son homologue russe pour la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, région à majorité kurde, sauf qu'a priori, Moscou n'y est pas favorable. C'est une correspondance signée Claude Brouillot.
Essayer de faire baisser la tension concernant la question de cette nouvelle zone démilitarisée, l'entourage du Kremlin ces dernières heures a d'abord rappelé que tout devait être pensé dans la perspective d'une solution politique pour la Syrie, avant de rappeler encore une fois que Damas avait vocation à retrouver l'intégrité et la gestion totale de son territoire, justement pour que cette solution politique soit applicable. Mais il y a un autre point sur lequel la Russie va insister cet après-midi avec la délégation turque, c'est la nécessité de faire un état des lieux sur la situation à Idleb. Pour Sergueï Lavrov, c'est une question centrale. Le chef de la diplomatie russe a répété ces dernières semaines sur cet aspect que le compte n'y était pas, référence selon lui à l'incapacité dans laquelle se trouverait l'armée turque pour empêcher des attaques venant de milices placées sous sa protection dans la région d'Idleb. Le Kremlin, qui a d'ores et déjà laissé entendre que, quelles que soient les décisions à prendre, elles passeront d'abord par un nouveau sommet, incluant cette fois la présence de l'Iran, sommet que l'on n'annonce pas avant le printemps, le temps justement de voir où en sera le retrait américain de Syrie à cet instant.
Rentrée prématurément d'une tournée internationale en raison des manifestations anti-gouvernementales qui secouent son pays, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a lancé hier un appel au dialogue à l'opposition, laquelle l'a aussitôt rejeté en exigeant d'abord la fin de la répression. Voilà une semaine maintenant que le pays, étranglé par deux décennies de crise économique, est secoué par de violentes manifestations contre la hausse spectaculaire, plus 150% des prix des carburants ordonnés par le gouvernement. L'Union européenne et l'Union africaine ont annoncé conjointement hier qu'elles prenaient note de la confirmation de la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi lors de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, un scrutin portant au résultat contesté, mais sans doute la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. De même que l'aval accordé par plusieurs des poids lourds de la scène diplomatique africaine ont-ils changé la donne? Quoi qu'il en soit, et seule certitude, les Européens se seront donc démarqués de leur déclaration de la semaine dernière quant à leur doute ou à leur demande de publication de résultats plus cohérents avec les attentes. Les précisions à Bruxelles du correspondant de RFI pour France Culture, Pierre Benazet.
Les représentants de l'Union africaine et de l'Union européenne n'ont pas formellement reconnu la victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle. Ils se sont contentés de prendre note de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle de Kinshasa. Européens et Africains se sont en revanche engagés à collaborer avec la République démocratique du Congo. Smaïl Chergui, commissaire chargé de la paix et de la sécurité à la Commission de l'Union africaine.
Au moment où il y a pour la première fois un transfert de pouvoir pacifique dans ce pays, c'est un événement important et cela devrait nous donner l'énergie et les moyens d'engager ce pays très important de notre continent sur une trajectoire de paix, de stabilité et de développement. Nous avons pris acte des résultats proclamés par les institutions nationales et nous sommes prêts, en tant que Commission africaine, à travailler avec le président Félix Tshisekedi.
De leur côté, les Européens ont mis un terme aux critiques et aux doutes exprimés avant la proclamation officielle du résultat. Ils affichent désormais leur espoir que le nouveau président parviendra à rassembler la République démocratique du Congo pour faire face aux défis économiques, de société et de sécurité.
À un peu plus de 2 mois de la date fixée pour le Brexit, aucun consensus n'a encore émergé à Londres sur la manière ni même l'opportunité de mener à bien ce retrait. Le ministre britannique du Commerce, Liam Fox, devrait profiter de son passage au Forum économique de Davos pour discuter avec ses homologues du renouvellement de leurs accords commerciaux après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. De son côté, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, Michel Barnier, a répété que l'accord rejeté la semaine dernière par les parlementaires britanniques reste le seul traité du divorce possible. Ça n'est a priori pas franchement le genre de substance que l'on s'attend à trouver dans les couches jetables pour bébés. Dans un rapport inédit publié ce matin, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, alerte sur la présence de différentes substances chimiques dangereuses. Des pesticides, pourtant interdits dans de nombreux pays dont la France, au glyphosate, l'herbicide controversé de Monsanto, en passant par des hydrocarbures aromatiques que l'on retrouve habituellement dans les moteurs diesel. La liste est aussi longue qu'inquiétante. Fiona Mogadam, bonjour.
Bonjour Thomas.
Le gouvernement français appelle donc ce matin les fabricants et distributeurs de couches pour bébés jetables à prendre des mesures sous 15 jours afin d'éliminer ou de réduire les substances chimiques potentiellement dangereuses.
Le gouvernement laisse 15 jours aux fabricants pour proposer un plan d'action qui modifie le processus de fabrication des couches jetables. 23 modèles ont été analysés par l'ANSES entre 2016 et 2018. Parmi les plus utilisés en France, les marques ne sont pas connues, mais les modèles dits écologiques sont aussi concernés. À l'intérieur, une soixantaine de substances chimiques détectées, dont certaines dépassent les seuils sanitaires. Ce n'est pas le cas des pesticides ni du glyphosate. Les produits toxiques se retrouvent dans les couches des bébés de différentes manières. Soit ils sont ajoutés intentionnellement, c'est le cas des substances parfumantes, soit ils proviennent de matières premières, ça peut être le cellulose par exemple qui contient des traces de pesticides. Ils peuvent enfin provenir des procédés de fabrication avec le chlore qui est utilisé pour blanchir les couches. Ces substances peuvent migrer dans l'urine et entrer en contact prolongé avec la peau des bébés, avec des risques d'allergie ou cancérogènes pour les PCB, les dioxines. Un risque sanitaire ne peut être exclu selon l'ANSES, mais il n'y a pas de danger grave et immédiat. Ce matin, la ministre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, elle aussi voulu rassurer les parents. Il faut continuer à mettre des couches à nos bébés. Le gouvernement qui agit donc par précaution, les contrôles vont être renforcés. La France va demander une baisse des seuils de tolérance des substances chimiques à l'Europe. Et il est demandé aux fabricants plus de transparence sur la composition et la fabrication des couches.
Merci Fiona Mogadam. Le maire écologiste de Grande-Synthe dans le Nord a annoncé aujourd'hui engager un recours contre l'État pour non-respect de ses engagements climatique devant le Conseil d'État, une initiative présentée comme une première en France. Damien Carême avait déjà adressé un recours gracieux, c'était le 19 novembre dernier, mais sans réponse de l'État, il a donc décidé de porter son recours vers la juridiction supérieure. C'est un mariage à première vue contre nature, celui visant à unir l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec l'Agence française pour la biodiversité. Un projet de loi sera discuté à partir de ce soir pour entériner la création donc d'un établissement public unique de gestion et de la protection de la nature, baptisé l'Office français de la biodiversité. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est peu de dire que ce projet de fusion n'enthousiasmait pas les chasseurs. Comment le gouvernement a-t-il réussi à les amadouer?
C'est vrai que faire perdre leur chère autonomie aux chasseurs, les faire entrer dans un organisme plus large de protection de la biodiversité, c'est fait avec quelques compromis et cadeaux de la part du gouvernement, dénoncés au moment d'ailleurs de son départ par Nicolas Hulot. Prix du permis de chasse divisé par deux, prolongation probable des dates de chasse des oies sauvages par exemple, et au sein du nouvel office donc français de la biodiversité, une promesse de gestion adaptive des espèces. Les actions de protection de la nature craignent de voir ainsi la liste des espèces chassables s'étendre avec cette approche défendue donc par la Fédération nationale des chasseurs. Quelques compromis nécessaires selon Barbara Pompili, députée En Marche et présidente de la commission durable à l'Assemblée nationale.
Il faut savoir essayer de trouver des compromis. On demande aux chasseurs de perdre une partie de leur influence sur cet organisme. Moi, j'avais toujours trouvé que ça avait un côté un petit peu anormal qu'un établissement public de l'État soit ainsi géré majoritairement par les chasseurs. Donc je trouve que là, on revient à quelque chose qui est plus normal. Maintenant, les chasseurs ont souhaité négocier un peu et puis trouver des portes de sortie. Je crois que le compromis qui a été trouvé est un compromis, donc ce n'est pas parfait, mais si ça nous permet, nous, aujourd'hui, de créer cet établissement dont on a tellement besoin, le jeu en vaut la chandelle.
Voilà, l'un des buts premiers de ce nouvel Office français de la biodiversité sera de faire connaître bien tous les enjeux autour de la biodiversité, autour de la disparition surtout de cette biodiversité en France, avec l'annonce aussi d'une police de l'environnement renforcée.
Merci Véronique Robérotte. La loi anti-casseurs arrive ce matin à l'Assemblée devant la commission des lois. Le texte qui entend prévenir les violences lors des manifestations suscite d'ores et déjà la controverse, y compris au sein de la majorité. La polémique porte notamment sur l'interdiction administrative de manifester. Emmanuel Macron repartira lui à nouveau en campagne dès demain pour répondre à la crise des gilets jaunes après l'Eure et le Lot. La semaine dernière, le président est attendu dans la Drôme où il s'entretiendra avec les élus de la région dans le cadre du grand débat national. Et pour évoquer justement cette grande consultation, invité aujourd'hui Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po et surtout l'une des 5 personnalités désignées pour garantir l'indépendance de ce grand débat national. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Monsieur Perrineau, vous êtes, je le disais donc, et selon la terminologie officielle, l'un des 5 garants choisis par le gouvernement, sauf que je crois savoir que vous réfutez vous-même ce terme de garant. Pour quelle raison?
On ne va pas commencer par des querelles de mots. L'enjeu est trop important. L'autorité qui m'a nommé, le président du Sénat, Gérard Larcher, et moi-même, nous préférerions qu'on utilise le terme d'observateur. Parce que c'est difficile d'être garant d'un processus qui est en train de s'inventer. Le processus du grand débat national n'a jamais existé en France, n'a jamais existé dans un autre pays. C'est une expérience de démocratie vivante, à une échelle tout de même massive. On regarde la manière d'ailleurs dont aujourd'hui, en quelques jours, des centaines de milliers de citoyens sont en train de s'emparer de cette affaire. Donc voilà, pour l'instant, nous sommes dans un stade d'observateurs, mais bien sûr, ces observateurs doivent aussi garantir la qualité démocratique du processus complètement innovant qui est en train de se mettre en place.
Stéphane Robert.
Pour rester sur la sémantique, elle a son importance. Malgré tout, vous dites qu'il ne faut pas que ce soit une consultation, il faut que ce soit réellement un débat. Voilà. Quelle différence vous faites là et en quoi ça a son importance?
Voilà. Si vous voulez, ce qui s'engage, ça s'engage dans un contexte tout à fait particulier. La démocratie française ne va pas bien. Et une immense majorité des citoyens, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, le disent régulièrement dans toute une série d'enquêtes. D'autre part, le mouvement des Gilets jaunes a été le symptôme, un symptôme parmi d'autres, de ce malaise démocratique. Pour en sortir, il faut remettre dans le jeu et donner la parole à l'ensemble des citoyens. Et le processus du grand débat, c'est de mettre en débat les citoyens, je commence par eux, les citoyens, et en particulier les citoyens qui n'ont pas souvent droit à la parole ou qui ne s'autorisent pas à prendre la parole. Et puis, bien sûr, les élus, on voit le rôle que jouent les maires dans l'organisation, mais aussi parfois dans le débat, les forces vives, ce qu'on appelait jadis les forces vives de la nation, les syndicats, les associations. Mais il faut que les citoyens soient là. Sinon, nous serons passés à côté de l'essentiel. Donc, voilà ce que c'est qu'un grand débat. Nous, nous sommes garants, nous sommes très attentifs, nous venons d'être nommés, mais nous sommes très attentifs aux conditions concrètes de ce grand débat qui va durer pendant 2 mois, du 15 janvier au 15 mars. Et ça n'est pas une consultation, parce que la consultation, il y en a régulièrement, il y en a toutes les semaines. Il y a le sondage d'opinion. Et si ce grand débat tourner à la consultation à partir de questions fermées, ça n'aurait aucun sens. C'est pour ça d'ailleurs que déjà le Collège des Garants est intervenu pour dire à la mission du Grand Débat National, qui cherche à faciliter en offrant par exemple un kit à ceux qui veulent rentrer dans ce Grand Débat sur le site Le Grand Débat National, nous leur avons dit, voilà, pour lancer le Grand Débat sur les 4 grands thèmes qui ont été choisis pour organiser ce grand débat, eh bien, il est préférable de commencer par des questions ouvertes. Il ne faut pas contraindre le débat. Si on part de questions fermées, qu'est-ce qu'on va faire? On va, peu à peu, faire dériver le débat vers une consultation. Un grand débat, ça n'est pas une consultation, c'est autre chose.
On voit qu'il y a déjà des premières enquêtes qui sortent et qui nous disent que 67% des personnes interrogées estiment que ce débat est une bonne chose. En revanche, parallèlement, 62% pensent que Emmanuel Macron n'en tiendra pas compte. Alors, de ce que vous en voyez pour le moment, est-ce que vous avez l'impression que la population s'empare de cette chose-là?
Pour l'instant, la population s'en empare concrètement. Les enquêtes d'opinion montraient quelque chose de très intéressant en amont de ce débat, il y a quelques jours encore. Un Français sur deux disait « j'ai envie de rentrer dans le débat ». Vous vous rendez compte, c'est énorme. 50% des Français. On n'arrivera pas certainement à 50% des Français rentrant objectivement dans le débat. Mais telle était la volonté, l'appétence, l'appétit démocratique. Et puis, en même temps, ces mêmes Français disaient, dans un pourcentage de 80% à peu près, qu'ils doutaient de la fiabilité de l'organisation concrète du Grand Débat. Et notre objectif, à nous, les 5 garants, c'est de réduire ce différentiel entre cet appétit démocratique et ce doute, cette défiance. Une des tâches principales des 5 garants, c'est de remettre de la confiance dans le dispositif.
Vous avez déjà des premières expériences, notamment il y a eu l'organisation d'un débat à Villiers-le-Bel, vous disiez, et ça se passe plutôt bien.
Tout à fait. Une de nos missions, bien sûr, c'est d'aller voir concrètement sur le terrain, de se mettre à l'écoute. Nous n'avons pas à participer au débat. Nous sommes garants d'un processus et de la qualité démocratique de ce processus. Mais bien sûr, on a prévu, et déjà, deux d'entre nous sont allés, il y a 2 jours, si ma mémoire est exacte, à Villiers-le-Bel. Et le premier retour que l'on a eu était un retour extrêmement positif. Des citoyens de base, une 60aine de citoyens, dans une salle de quartier de Villiers-le-Bel se sont réunis sous forme de 5 tables. Il y avait des opinions différentes, mais on s'écoutait entre opinions différentes. Et dans un débat, on peut également, ça n'est pas obligatoire, mais on peut aussi changer d'opinion. C'est ça la démocratie. On parlait tout à l'heure de compromis entre les chasseurs et les défenseurs de la nature. Eh bien voilà, on peut imaginer qu'à la base, les citoyens aussi évoluent dans le débat démocratique. Et ensuite, tout cela donne lieu à des cahiers qui recensent la nature du débat et des propositions. Et ces cahiers ensuite remontent. Alors ça sera la deuxième phase après les débats. C'est la remontée, vous rendez compte, des millions d'informations dont nous disposerons. Et là, il faudra être très attentif à la qualité de la remontée et à ce qu'il n'y ait pas trop de pertes en ligne, si vous me permettez, entre le local, le régional et le national.
Et on terminera là-dessus. Merci Pascal Perrino, professeur des universités à Sciences Po et donc l'un des 5 garants ou observateurs désignés pour ce grand débat national. Et merci à Stéphane Robert. On termine avec un mot rapide de météo. 25 départements ont été placés en vigilance orange, neige et verglas. Cet après-midi, les averses de neige se replieront progressivement sur la Franche-Comté Rhône-Alpes, mais aussi le littoral atlantique. Attention par ailleurs au risque d'avalanche, tout particulièrement dans les Pyrénées. Enfin, les températures, elles seront généralement comprises entre 0 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.